Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Fly me to the moon and let me play among the stars.
Bonjour, emmène-moi sur la lune et embrasse-moi, chante Julie London. Eh bien, à l'approche des vacances de Pâques, c'est plutôt sur un doux baiser que sur un billet d'avion qu'il faut compter. Les avions et les fusées sont cloués au sol. On pourra éventuellement prendre le train, l'environnement ne s'en portera pas plus mal. Et si les restrictions le permettent, partir à l'étranger. Mais quand on vit sur une île, beaucoup plus compliqué de faire de longs voyages sans prendre l'avion. En Irlande, par exemple, les autorités proscrivent les voyages non essentiels. Résultat, la fréquentation de l'aéroport de Dublin a chuté de 80% en 2020. Et il y a un patron, Emeline Vin, qui est particulièrement en colère. C'est celui de la compagnie à bas coût Ryanair.
En 2021, Michael O'Leary espère revenir à 70% du volume de 2019, la dernière saison pré-pandémie. Pour le PDG de Ryanair, la vaccination, la soif de vacances à l'étranger et la fin des restrictions devraient permettre de relancer la compagnie aérienne qui a perdu 1 milliard d'euros en 2020. Au début de cette année, la compagnie Al Ahly a lancé une campagne publicitaire intitulée Jab and Go, traduction un vaccin et c'est parti pour les vacances. Couplée à des vols à prix ultra bas, la marque de fabrique du transporteur, parmi les destinations Biarritz, Rhodes ou Ibiza. L'autorité de régulation de la publicité irlandaise a fait interdire la campagne jugée irresponsable, inappropriée, blessante et minimisant les effets de la pandémie. Le gouvernement irlandais rappelle d'ailleurs que pour l'instant, les voyages à l'étranger non essentiels sont interdits et incite tout le monde à prévoir des staycations, des vacances dans le pays. Dans une interview à la radio nationale RTE, Michael O'Leary a répliqué avec colère. Pour lui, le pays a besoin d'optimisme et le conseil médical, qui tient un point presse quotidien, ne fait que pourrir le moral des Irlandais. L'entrepreneur est allé jusqu'à dénoncer une hystérie de masse autour de la réponse à la pandémie et appelle les autorités à prendre exemple sur le Royaume-Uni. Après que Boris Johnson y a annoncé son plan de sortie de confinement, les réservations de vols à bas prix vers les destinations touristiques ont été multipliées par 6.
C'est toute l'industrie aérienne qui est en difficulté et cela pourrait durer. La pandémie change les habitudes en profondeur. Télétravail, visioconférence, relocalisation du tourisme, prise de conscience climatique. Selon les organisations professionnelles comme la TAG, qui regroupe les compagnies, les constructeurs et les aéroports, le trafic aérien pourrait être en baisse de 16% supplémentaire en 2050 par rapport aux prévisions de l'an dernier. La compagnie néerlandaise KLM vient d'ailleurs d'annoncer la suppression de 800 à 1000 emplois après avoir déjà entériné 5000 licenciements il y a 6 mois. Cela n'empêche pas certains pays d'avoir de grands projets. L'Albanie s'apprête ainsi à construire un nouvel aéroport international présenté par le gouvernement comme un moyen de développer le tourisme dans le sud du pays. Mais le lieu retenu pour sa construction est une zone protégée et les associations environnementales sont vent debout. C'est un reportage de Louis Seyé.
En haut d'une petite tour en bois, Zudjon Vorpsi installe sa longue vue pour observer les eaux peu profondes de la lagune de Narta. Été comme hiver, ce jeune ornithologue étudie les vasières du sud de l'Albanie pour l'ONG de protection de l'environnement, PPNEA.
Même si nous ne sommes pas encore au pic de la migration, elle a commencé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà autour de nous ces groupes de petits échassiers et d'autres espèces d'oiseaux qui sont en route vers leur site de nidification dans le nord de l'Europe. Ils font une escale ici pour reprendre des forces.
Une lagune, des marais salants, des prairies inondables, une forêt de pins. Située à l'embouchure du fleuve Vjosa sur l'Adriatique, la zone humide de Narta est une étape importante pour les oiseaux migrateurs qui reviennent d'Afrique. On y dénombre plus de 200 espèces d'oiseaux, dont près de 3000 flamants roses. Zudjon Vorpsi.
Les lagunes côtières représentent seulement 1,7% de notre territoire, mais elles rendent de nombreux services écologiques. Et elles servent aussi les populations humaines, avec la pêche ou en assurant une protection contre les inondations. Mais ces lagunes jouent surtout un rôle primordial pour les oiseaux. Beaucoup d'espèces présentes ici, à Narta, bénéficient d'un statut de protection européen et sont concernées par les directives environnementales de l'Union européenne.
Au niveau local comme à l'international, les quelques 20 000 hectares des paysages de Vjosnart sont encadrés par plusieurs statuts de protection. C'est pourtant au cœur de cette zone protégée que le gouvernement albanais a annoncé au début du mois la construction d'un aéroport international. Le projet soulève l'enthousiasme de beaucoup d'habitants de Vlora, la grande ville de la région. Ingénieur forestier, Lazar Djonca travaille pour la municipalité de Vlora.
Nous, les habitants, on a besoin d'un aéroport. Grâce à lui, des gens viendront de France, par exemple. Pourquoi devrait-il atterrir à Tirana ? Voilà, l'aéroport sera là. Nous ne sommes pas à l'écart des évolutions du reste du monde. Dans beaucoup de pays, il y a eu une coordination qui a permis de construire des aéroports dans des zones à haute valeur environnementale. L'idée, c'est de faire en sorte que ce développement économique ait le moins d'impact possible sur l'environnement.
En pleine campagne électorale pour un troisième mandat, le Premier ministre socialiste Edi Rama présente ce projet d'aéroport comme un investissement majeur qui permettra la création de milliers d'emplois dans le sud du pays. Hôtels, routes, marinas, terrains de golf, de nombreuses infrastructures sont associées à sa construction. Dans une campagne albanaise marquée par le chômage et la pauvreté, ces promesses font naître des espoirs de changement. Fanasi Berberi tient une petite épicerie dans le village de Narta.
Tout ce qui se construit, c'est une bonne chose. Il faut construire. Ça va ramener de la vie au pays. Pourquoi ne pas le construire ? Ça va relancer l'économie. Et des gens vont venir de France, d'Allemagne. Ils vont dépenser leurs euros ici. Et comme ça, nous, on pourra manger. Plus il en viendra, plus on en profitera.
Le lieu retenu pour la construction est situé à peine 1h30 de route de l'actuel aéroport de Tirana. Le lancement de ce projet en pleine crise sanitaire et économique liée à la Covid-19 suscite de nombreuses critiques. Alexander Traiche est le directeur de l'ONG environnementale PPNEA.
Nous sommes au beau milieu d'une crise globale provoquée par le coronavirus et tout le monde sait que le secteur aérien a subi un coup sans précédent. L'an dernier, par exemple, l'aéroport de Tirana a enregistré une baisse de fréquentation de 70%. Tous les experts mondiaux du secteur disent que cette situation pourra durer plusieurs années et qu'il faudra au minimum 5 ou 6 ans avant de revenir au niveau d'avant la pandémie. Alors, se lancer dans un tel investissement dans ce contexte, c'est vraiment incompréhensible.
En février, 37 ONG locales et internationales ont adressé une lettre ouverte au gouvernement albanais afin de dénoncer le manque de transparence du projet et exprimer leur opposition à cette construction. Pour Alexander Traiche, la zone protégée de Narta doit être préservée.
C'est sûrement la cause environnementale pour laquelle il faut lutter avec force. Parce que si on laisse un aéroport se construire au sein d'une zone protégée, on perdra la notion même de zone protégée. Justement, elles ont été mises en place pour préserver ces endroits de ce type d'investissement. Si on construit un aéroport à Narta, rien ne nous garantit que les autres zones protégées d'Albanie ne seront pas elles aussi concernées par de futurs investissements de type industriel ou d'exploitation intensive. Ce serait un précédent très dangereux.
Les deux entreprises concessionnaires désignées par le gouvernement se sont engagées à investir 104 millions d'euros. Mais selon les termes de l'appel d'offres, si les passagers et les bénéfices ne sont pas au rendez-vous, c'est l'État et donc les contribuables albanais qui devront dédommager les investisseurs privés à hauteur de 138 millions d'euros.
À Barcelone, un projet aéroportuaire vient lui d'être suspendu, controversé là encore pour des raisons environnementales. L'agrandissement de l'aéroport d'El Prat ne sera pas lancé avant 3 ans en raison des conséquences de la pandémie, selon les autorités de l'aéroport. La construction d'une troisième piste ferait passer le trafic de 55 à 70 millions de voyageurs par an. Mais pour l'instant, ce sont plutôt les pertes qui s'accumulent. Les explications d'Élise Gazangel.
L'agrandissement de l'aéroport de Barcelone devra attendre. Le président de la compagnie AENA, qui gère les aéroports du pays, estime que les travaux qui prévoyaient notamment une troisième piste pour l'aéroport d'El Prat de Barcelone ne pourront commencer avant 2025 au lieu de l'année prochaine. Un retard de 3 ans, donc dû exclusivement à la pandémie, selon le responsable, même si ces 500 mètres de pistes supplémentaires supposaient l'occupation d'un espace naturel protégé et provoquaient déjà des réticences au sein du gouvernement régional et des mairies alentours. AENA espère profiter de ce temps supplémentaire pour convaincre les autorités de la nécessité de cet agrandissement, alors qu'elle prévoit justement un retour à la normale du trafic aérien pour 2025. En 2020, par contre, et pour la première fois depuis 2012, l'entreprise a été déficitaire. Au total, elle a perdu près de 127 millions d'euros à cause de la pandémie, avec une réduction de 72% du trafic aérien en Espagne cette année. Une chute sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, expliquait le président d'AENA. Pour le moment, en tout cas, Barcelone est loin d'avoir retrouvé son activité habituelle. D'ailleurs, seul un terminal sur les deux que compte l'aéroport d'El Prat est ouvert. Le terminal 2 est, lui, à l'abandon depuis des mois, sans aucune prévision de réouverture.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down, oh, below my bully boys blow. Soon may the bellyman come.
Les marins sont-ils les oubliés de la crise sanitaire ? Fin 2020, l'OMI, l'Agence maritime des Nations Unies, estimait que quelque 400 000 marins du monde entier étaient toujours sur leur navire, alors que leur contrat avait pris fin, faute de pouvoir être rapatriés. Et on estime que 400 000 autres sont bloqués chez eux, là aussi en raison des restrictions, incapables donc de rejoindre leur navire et de subvenir aux besoins de leur famille. Bref, le Covid frappe durement le monde de la mer. Et un an après le début de la pandémie, l'incertitude qui dure provoque beaucoup d'anxiété. Juliette Rangeval.
Les immenses paquebots de croisière à l'arrêt, les porte-containers géants qui transportent nourriture, médicaments et équipements, 80% du volume du commerce mondial passe par eux, mais aussi les embarcations de taille modeste, le monde de la mer dans son ensemble subit les conséquences de la pandémie, comme ce capitaine de remorqueur, un marin français, parti en mer en mars de l'année dernière.
Donc on est parti en tout début de confinement, donc on a commencé avec une quarantaine, une journaliste a appelé quarantaine carcérale qui est assez bien imagée puisqu'on est effectivement bloqué dans une chambre d'hôtel pendant 14 jours. Ensuite, l'embarquement sur un petit navire, plus le navire est petit, plus la promiscuité est importante, moins il y a d'air de repos, de détente, de bruit, des vibrations. Par exemple, les cabines individuelles sont limitées, donc pas forcément pour tout le monde. Il y a un seul espace qui est fait à la fois l'endroit où on peut discuter, l'endroit où on mange. Donc, avec les plans Covid, on est obligé de limiter le nombre de personnes, la promiscuité, donc c'est chacun enfermé dans sa cabine en dehors des heures bien délimitées, donc ça impacte énormément sur les relations entre les gens.
La décision est difficile à prendre, elle a des conséquences financières pour le client, pour l'armateur, mais la sécurité à bord est compromise, il faut arrêter et revenir au port.
Il y a un moment, on a atteint effectivement les limites humaine, matériellement, on n'a pas eu de pépins, tout allait bien. Maintenant, effectivement, on travaille dans un environnement très exigeant, très accidentogène. Quand on sent que toutes les conditions sont pas réunies, avec effectivement quelques signes avant-coureurs, des rixes ou semblants de rixes entre équipages qui n'auraient pas lieu d'être en temps normal. Il faut savoir dire stop.
Aujourd'hui, ce capitaine attend d'embarquer de nouveau. Et comme beaucoup de marins, il a encore du mal à faire face à l'incertitude qui règne.
La quarantaine, c'est pas forcément confortable. Et puis, cette situation de Covid, on n'a plus les mêmes facilités pour aller effectivement potentiellement se détendre à terre et relâcher de la pression pour revenir plus zen, pour avoir accès à des soins à terre. Donc il y a une certaine anxiété, c'est sûr.
Cette anxiété face à l'incertitude, Camille Gégaud la constate bien souvent ces derniers mois. Elle est psychologue clinicienne à l'hôpital de Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, et elle coordonne les ressources du Centre d'aide psychologique en mer, créé il y a tout juste un an.
Moi, je travaille très en lien avec le CCMM, le Centre de consultation médicale maritime de Toulouse, qui est le numéro, je dirais, premier que les marins utilisent embarqués, donc qui font les premières évaluations médicales. Et quand il y a besoin d'une évaluation plus psychiatrique, psychologique, à ce moment-là, ils nous font le relais. Et après, spontanément, des bateaux qui appellent, alors soit post-événement de mer, soit parce que il y a une crise psychique à bord. Après, crise psychique, ça peut aller de la crise d'angoisse à l'état de crise suicidaire, à l'épuisement type burn-out. burn-out. Donc voilà, ça c'est pour les situations embarquées. Après, ça peut être des marins aussi à terre qui se sentiraient plus d'avoir un suivi auprès d'une consultation spécialisée.
Pour la sécurité en mer, pour la santé mentale des marins, il est important de reconnaître qu'ils sont des travailleurs essentiels, explique Camille Gégaud.
Qu'on puisse peut-être sortir de l'image d'Épinal du marin qui peut tout subir, tout porter sans broncher, ou que c'est normal ce qu'il vit, pour prendre en considération que c'est aussi grâce à eux que notre vie économique, en tout cas notre confort quotidien est assuré, et que ils font partie des acteurs essentiels et qui, en ça, il faut en prendre soin.
L'ONU a même voté une résolution qui reconnaît que les marins sont des travailleurs essentiels. Même la vie spirituelle est bouleversée par la pandémie, comme l'explique Jean-Philippe Rigaud, cet ancien pilote du port de Marseille est aujourd'hui diacre de la mer.
Il y a toujours un moment sur un bateau où vous avez peur pour les vôtres qui sont restés à terre, ou pour vous-même, quoi, au niveau de la sécurité de la navigation. Donc la peur peut être une motivation, mais aussi l'abandon, la confiance, parce que on peut pas toujours voir les choses de façon négative. Vous savez, quand vous êtes 4 heures dans la nuit à faire un quart, à contempler les étoiles, quand vous êtes dans la journée avec la mer comme seul horizon, forcément vous avez des pensées qui vous amènent vers le ciel, quoi. Donc ils ont cette sensibilité spirituelle, quelle que soit leur religion, qui est accompagnée d'une frustration, parce qu'ils n'ont absolument à aucun moment la possibilité d'exercer leur religion.
Bonjour et bienvenue dans cette basilique Notre-Dame de la Garde. Bienvenue à vous qui êtes ici. Bienvenue à vous, marins, qui nous rejoignez via la technique.
Pour les équipages bloqués à bord, la mission de la mer de Marseille propose tous les premiers samedis du mois une messe en direct via YouTube. Et chaque mois, des dizaines de bateaux dans le monde se connectent pour l'occasion.
Just try it. Play the record over again right now.
Voyage en musique avec Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Vous nous emmenez en Allemagne aujourd'hui.
C'est à une déambulation dans un Berlin fraîchement réunifié à laquelle nous convie la chanteuse allemande Nina Hagen sur la chanson « Berlin ist Duft ». Paru voilà 30 ans, en 1991, alors qu'un vote du Bundestag déplaçait le centre de gravité de l'Allemagne de Bonn vers Berlin, en y installant à nouveau le siège du Parlement et du gouvernement. Mais le point de vue de Nina Hagen est plus léger, plus rebelle, et célèbre la liberté retrouvée maintenant que le vieux mur n'est plus. Les déambulations entre une fête sur Karl Marx Allee et un énorme spectacle dans Keibelstrasse. Et les frontières de la capitale sont en feu, chante Nina Hagen, avec comme un air de revanche pour celle qui est née à Berlin-Est et a dû quitter la RDA en 1976 suite à l'expulsion de son beau-père, alors même que sa carrière de chanteuse commençait à décoller.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte avec Nina Hagen, la diva du punk. À la réalisation, Françoise Grelot. Retrouvez toutes les émissions sur la page podcast de notre site rfi.fr et sur votre plateforme d'écoute favorite. À demain.